Au micro, Idrissa Sidoudia, bonjour. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. À Madagascar, la procureure générale Bertine Razafiarivone a annoncé hier que de nouveaux suspects, dont des généraux, des militaires et des policiers, ont été arrêtés à la suite d'un projet déjoué d'assassinat du président Ange Rajoelina. Au Niger, le ministère de la Défense a annoncé hier soir que 15 militaires nigériens ont été tués samedi, 7 blessés et 6 portés disparus, après une attaque terroriste dans le département de Torodi, dans le sud-ouest, proche du Burkina Faso. En République démocratique du Congo, des édifices de l'Église catholique ont été attaqués à Kinshasa et au Kasaï. Yacouba Ouédraogo nous donnera les détails. En Tunisie, 3 députés critiques envers le président Kais Saïd ont été arrêtés l'un vendredi et les 2 autres dans la nuit de samedi à dimanche, une semaine après que le président a limogé son premier ministre, suspendu le Parlement et levé l'immunité parlementaire des députés. Face aux inquiétudes de voir le berceau des printemps arabes régresser vers l'autoritarisme, M. Saïd assure qu'il n'y a pas de peur à avoir à ce sujet. Les arrestations, dit-il, ne concernent que des personnes déjà poursuivies par la justice. L'armée américaine a confirmé avoir mené une 3e frappe aérienne en moins de 2 semaines hier en Somalie contre des militants d'Al-Shabaab en soutien aux forces gouvernementales somaliennes dans les environs de Kaykad, dans l'état central de Galmudug. Plus de 700 migrants tentant de traverser la Méditerranée à bord d'embarcations de fortune ont été secourus durant le week-end, notamment au large de Malte et de la Libye, a annoncé dimanche l'ONG SOS Méditerranée. Le Nigeria a reçu hier des États-Unis 4 millions de doses du vaccin Moderna contre le coronavirus au moment où ce pays africain traverse une 3e vague. De son côté, la Tunisie, en grande difficulté face au nouveau rebond de l'épidémie, a reçu dimanche 1,5 million de doses de vaccin fournies par l'Italie. Des milliers de personnes hostiles aux restrictions décidées pour lutter contre le COVID-19 ont bravé ce dimanche l'interdiction de manifester et se sont rassemblés illégalement dans les rues de Berlin en Allemagne, provoquant des échauffourées avec la police. Des millions de personnes sont confinées chez elles aujourd'hui en Chine et elles ont subi dimanche un test de dépistage au COVID-19 dans plusieurs grandes villes de Chine pour tenter de juguler une hausse des cas de coronavirus sans précédent depuis des mois. Le docteur Anthony Fauci, conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire, a dit hier ne pas penser que les États-Unis subiront de nouveaux confinements, même si la situation va se détériorer à cause d'une épidémie des non-vaccinés. Des combats urbains opposés dimanche, forces afghanes et talibanes dans Lashkar-Gah, une des 3 capitales provinciales afghanes sous la menace directe des insurgés qui se sont aussi rapprochés d'Herat et ont tiré des roquettes sur l'aéroport de Kandahar, les grandes villes de l'ouest et du sud de l'Afghanistan. Israël et les États-Unis et la Grande-Bretagne ont accusé hier l'Iran d'être derrière une récente attaque meurtrière au drone en mer d'Oman contre un pétrolier géré par la société d'un milliardaire israélien. Washington menaçant d'une réplique appropriée, tandis que Téhéran a nié tout lien avec cette affaire. Les sénateurs américains ont achevé dimanche l'examen d'un gigantesque plan d'investissement dans les infrastructures de 1 200 milliards de dollars, sujet crucial dans l'agenda du président Joe Biden et qui devrait être approuvé dans les prochains jours, a annoncé le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer. L'américaine Raven Sanders, vice-championne olympique du lancer du poids dimanche, a formé avec ses bras un X en célébrant sa médaille d'argent sur le podium des Jeux olympiques 2020, un message à destination des personnes oppressées selon la presse américaine. Le CIO a refusé de préciser s'il allait sanctionner Sanders. Évacuation hier de dizaines de villages et hôtels dans le sud touristique de la Turquie, face à la progression des incendies. La suite de nos informations. En République démocratique du Congo, des dizaines de jeunes ont caissé hier l'archevêché de Kinshasa et dans le Kasaï, des édifices catholiques ont été attaqués après des divergences sur le choix du président de la commission électorale selon des sources religieuses. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Ce dimanche 1er août, un groupe de personnes non identifiées s'est présenté à l'archevêché de Kinshasa et à la résidence du cardinal Fridolin Ambongo, scandant des chants et propos désobligeants et commettant des actes de dégradation, a écrit dans un communiqué l'abbé Georges Nguila, chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa. Au Kasaï, 11 églises catholiques et un projet piloté par des religieux catholiques ont fait l'objet d'actes délibérés de profanation, des actes ignobles et particulièrement révoltants, a écrit Mgr Bernard Emmanuel Kassanda, évêque de Mbujimayi dans le Kasaï oriental. Nous condamnons fermement ces actes contre les édifices de l'Église catholique en Mbujimayi et à Kinshasa, même si nous contestons la position des dirigeants catholiques, à commencer par le cardinal Ambongo, a déclaré Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS, parti au pouvoir. Vendredi, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et l'Église du Christ au Congo ont refusé d'avaliser le choix porté par 6 autres confessions religieuses sur un candidat président de la Commission électorale nationale indépendante. La loi reconnaît à 8 confessions religieuses la prérogative de proposer le président de la CENI.
En Zambie, le président Edouard Lungu a ordonné le déploiement de l'armée pour réprimer les violences politiques avant le scrutin présidentiel et législatif du 12 août. Les détails avec Bagassi Koura.
Le président Edgar Lungu justifie le déploiement de l'armée par sa volonté de freiner la violence politique en cours ces derniers jours. La commission électorale a interdit les réunions électorales en raison du Covid-19. Mais des affrontements entre partis politiques rivaux se sont poursuivis. Des partisans du Front patriotique, parti au pouvoir, et ceux du Parti uni pour le développement national s'affrontent avec des machettes et des haches dans certains quartiers de Lusaka et dans d'autres provinces. Le président est en train de perdre ses élections et il s'agit d'une mesure désespérée pour effrayer les électeurs, affirme Bredner Shangala, militant des droits de l'homme. Laura Mitty, directrice de l'ONG Alliance for Community Action, juge le déploiement de l'armée inexplicable du point de vue de l'état de droit. En juin, Amnesty International a mis en garde contre la répression de toute opinion dissidente menée par le président Lungu, qui menace, selon l'ONG, le déroulement de la présidentielle. À 64 ans, Edgar Lungu est candidat à un second mandat. Son principal rival, Hakainde Hichilema, a été arrêté à plusieurs reprises depuis qu'il a annoncé briguer le fauteuil présidentiel.
Le Nigeria a formulé de nouvelles inculpations pour terrorisme contre Ibrahim Zakzaki, leader de la minorité chiite dans le pays. Pourtant, Zakzaki et son épouse ont été acquittés récemment et libérés de prison. Nani Talani.
Le représentant du parquet, Dari Bayero, a déclaré que des inculpations pour terrorisme ont été déposées contre Zakzaki devant la Haute Cour fédérale 2 jours après sa libération. Les accusations englobent les délits de terrorisme et de trahison, a ajouté M. Bayero, précisant que Zakzaki a refusé de recevoir les nouveaux documents de l'accusation pendant sa détention. Ibrahim Zakzaki, fondateur du mouvement islamique du Nigeria, était détenu avec son épouse Zena Ibrahim depuis décembre 2015, après que des violences ont éclaté pendant une procession religieuse à Zaria dans le nord. L'armée a alors tiré, faisant plus de 350 morts, pour la plupart des chiites non armés, selon des organisations de défense des droits de l'homme. Accusé de meurtre, Ibrahim Zakzaki et sa femme ont été relaxés mercredi par le tribunal de Kaduna et ont retrouvé leur liberté. Le mouvement islamique du Nigeria, inspiré par la révolution islamique en Iran, rencontre une hostilité au Nigeria, où l'élite musulmane sunnite a des affinités avec l'Arabie saoudite. Le mouvement a été interdit par les autorités en 2019.
Maintenant les sports, la couverture spéciale des Jeux Olympiques avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Ce fut un week-end peu reluisant pour les Africains aux Jeux Olympiques, surtout en football où les deux représentants africains encore en lice ont été éjectés en demi-finale. Bagassi Koura.
Oui, la Côte d'Ivoire qui comptait mieux faire que sa demi-finale de 2008 a été stoppée samedi en quart de finale par l'Espagne 5-2 après prolongation. Le score était de 2-2 à l'issue du temps réglementaire. Dans la seconde demi-finale, l'Égypte s'est inclinée devant le Brésil 0-1. La finale opposera donc le Brésil à l'Espagne le 7 août. Au 100 mètres dames, la déception est grande pour l'Ivoirienne Marie-Josée Talou. Elle n'a pas pu monter sur le podium. La sprinteuse ivoirienne a fini quatrième, comme à Rio en 2016. Talou avait suscité beaucoup d'espoir chez les Africains en établissant un nouveau record d'Afrique en remportant sa série en 10,78 secondes. « Je suis désolé », a écrit l'ivoirienne sur Twitter. Le trio gagnant est jamaïcain. Bonne nouvelle par contre en boxe chez les 57 kg messieurs, le Ghanéen Samuel Taki a battu en quart de finale le Colombien Seiber David Avila Segura 3-2. A noter également cette grosse performance du week-end, celle de Caleb Dressel après son récital aquatique. L'Américain a remporté le 50 mètres libre et le relais 4 x 100 mètres 4 nages hier en clôture de la natation. Il totalise désormais 5 médailles d'or à Tokyo. Auparavant, le Floridien a remporté l'or du 4 x 100 mètres libre lundi, du 100 mètres nage libre jeudi, puis du 100 mètres papillon samedi. Mais son séjour nippon a tout de même subi un accroc. Lui qui espérait le grand chelem avec 6 courses à son programme a pris une 5e place avec le relais 4 x 100 mètres 4 nages mix.
Merci, Bagassi. Dans l'épreuve du 100 mètres, le successeur du roi Usain Bolt, triple champion olympique en 2008, 2012 et 2016, est connu, Namit Talani.
Il s'agit de l'Allemand Marcel Jacobs, vainqueur du 100 mètres en 9 secondes 80, nouveau record d'Europe. L'Italien a devancé l'Américain Fred Curley avec 9 secondes 84, et le Canadien André De Grasse avec 9 secondes 89. L'Allemand Marcel Jacobs devient ainsi le premier Européen champion olympique sur la ligne droite depuis le Britannique Linford Christie en 1992, une performance qui n'a pourtant pas vu venir.
Certainement, je m'attendais à arriver ici et faire de très bons Jeux Olympiques car j'étais vraiment en forme. Mon vrai objectif était d'atteindre la finale et de courir le plus vite possible. J'ai réussi à courir plus vite que tout, c'est un rêve d'enfant qui se réalise et j'essaierai d'en profiter le plus longtemps possible.
L'Allemand Marcel Jacobs succède au palmarès de la légende du sprint Usain Bolt, triple champion olympique dont il a visionné les courses à plusieurs reprises.
En 2008,
quand Bolt a gagné, j'étais à la plage, je regardais les JO à la TV.
Non a livello professionistico, ma comunque la facevo era la cosa che
a ce moment-là, je n'étais pas vraiment un athlète professionnel, mais je faisais déjà de l'athlétisme car j'aimais ça. Je me rappelle chaque course de Usain Bolt par cœur, je les ai toutes vues des millions de fois. Être ici après l'avoir vu à la TV est incroyable.
Dove lui è stato, quindi è veramente incredibile.
Avant Tokyo, l'Allemand Marcel Jacobs n'avait jamais participé à une finale mondiale ou européenne en plein air de sa carrière. Son seul fait d'armes reste un titre européen en salle sur 60 mètres cet hiver. Il s'est arrêté aux demi-finales des Mondiaux de Doha en 2019, comme de l'Euro de Berlin en 2018. Le nouveau roi inattendu du 100 mètres est né le 26 septembre 1994 à El Paso, au Texas, aux États-Unis, pays de son père. Sa mère italienne l'a emmené au pays alors qu'il n'avait pas encore 2 ans.
Merci, Namit. Dans l'épreuve du 400 mètres chez les hommes, le recordman du monde, le Sud-Africain Wade Van Niekerk, n'a pas forcé pour se qualifier pour les demi-finales. Le champion olympique en titre a terminé 3e de sa série en 45 secondes 25. Les demi-finales du 400 mètres sont programmées pour ce lundi et la finale jeudi. À suivre aussi ce lundi, la finale du 5000 mètres dames. Et pour finir, je vous raconte cette triste histoire survenue lors de ces JO. Un cheval de l'équipe suisse a dû être euthanasié après s'être blessé dans l'épreuve de course du concours complet. Jet Set s'est déchiré un ligament de la jambe avant droite à la réception d'un saut. En raison de la gravité de la blessure et de la douleur qu'elle a causée, le cheval a dû être euthanasié peu de temps après, a expliqué le comité olympique suisse. Le cavalier Robin Godel n'a pas été blessé dans l'accident, mais il sera remplacé ce lundi par la cavalière Evelyne Bodenmüller, qui montera Violaine de la Brasserie. C'est ici que se referme cette fenêtre consacrée aux Jeux Olympiques.
Merci, Yacouba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, la Banque centrale a interrompu la vente de devises au bureau de change pour alléger la pression sur la monnaie nationale. La décision va mettre fin à la fourniture de 5,72 milliards de dollars par an par la Banque centrale au bureau de change du pays. La banque cessera également de délivrer de nouvelles licences au bureau de change, dont le nombre a plus que doublé pour atteindre près de 5 500 au cours des 5 dernières années. La décision de l'institution financière semble être soutenue par les experts, mais les populations s'inquiètent de ses conséquences. Notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
La mesure a entraîné une dépréciation initiale de la valeur du Naira, la monnaie nationale. En effet, le retrait soudain de l'offre de la banque centrale fait augmenter le prix du dollar sur le marché. La banque accuse les propriétaires du bureau d'échange d'être impliqués dans la vente illicite des dollars. Le gouverneur de la banque centrale, Godwin Emefiele, est catégorique et menace.
We will deal ruthlessly with the Nigerian banks.
Nous allons agir impitoyablement contre les banques nigériennes qui collaborent avec ces bureaux de change illicites, parce qu'ils permettent que leurs banques et leur système de paiement soient utilisés pour faciliter ces transactions illicites.
Les Nigériens s'inquiètent de l'impact de cette décision sur la valeur du Naira, mais l'économiste Odilin Wepera soutient la décision de la première institution bancaire du pays.
Cette politique va sûrement discipliner le marché de change au Nigeria et réduire le niveau de corruption de ceux qui sont impliqués dans la vente des dollars. En plus, il doit y avoir une loi votée par le Parlement criminalisant les activités de tout Nigérian impliqué dans ces affaires de change, à moins que la personne bénéficie d'une licence.
Les opérateurs du bureau d'échange et les entreprises sont soumis à l'obtention d'une licence de la CBN pour effectuer leurs activités. Mais la Banque centrale affirme qu'il y a trop de corruption dans le secteur aujourd'hui. Cette mesure est la première mesure en date pour soutenir le Naira que la Banque centrale a dévalué 3 fois depuis mars 2020, la baisse des revenus pétroliers ayant érodé les réserves du pays. Gabriel Idahosa, directeur général à Gaumi Consulting Limited.
C'est rare de voir dans le monde entier un pays qui donne juste comme ça des devises aux bureaux de change. Les bureaux de change ne font pas partie du système financier essentiel. Ils offrent seulement des services de vente au détail.
Le Nigeria avait précédemment interdit les ventes de devises aux commerçants d'argent en mars 2020 pour empêcher les gens de se rassembler devant les bureaux d'échange au début de la pandémie de coronavirus. Le pays avait suspendu l'approvisionnement en 2016 lorsque le plus grand producteur de pétrole d'Afrique a dû faire face à une baisse de ses recettes en devises en raison de la baisse des prix du brut. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, les médecins menacent de passer de la grève radicale sous format polarisation des urgences à la grève sèche dans les prochaines heures. Ils fustigent la non-exécution des mesures prises par le gouvernement, qui a annoncé dans un communiqué signé par le ministre de la Santé, Jacques Mongani, le 28 juillet, que pour le troisième trimestre juillet, août et septembre 2021, une allocation de 100 à 200 dollars sera accordée aux médecins. Les deux parties se donnent rendez-vous ce lundi 2 août dans une conférence budgétaire pour dégager un consensus beaucoup plus large. Controverse, ce mouvement n'est pas observé dans la province du Nord Kivu, nous dit notre correspondant à Kinshasa, Patrick Lupika.
Les médecins restent campés sur leur position. Ces dernières 24 heures, 41 sections ont organisé leur assemblée générale pour une décision commune. Après compilation des PV, plus de 70% optent pour la poursuite de la grève. Ils attendent du gouvernement de la RDC la réalisation du point repris dans leur cahier des charges. Docteur Emmanuel Tayaye, secrétaire sectionnaire principal du CINAMED.
Nous maintenons notre position de la grève, la radicalisation. Nous attendons à c'est que le gouvernement puisse concrétiser ce qu'il a mis sur papier. Nous voulons avoir les signaux forts, visibles, concrets et palpables. D'ailleurs, en parlant de provinces, hormis la province du Congo central qui maintient la position de la radicalisation, il y a beaucoup de provinces qui se sont exprimées, notamment dans le nord du pays, au niveau de Kwango.
Dans la province du Nord Kivu, aucune institution hospitalière n'est en grève pour des raisons humanitaires, selon le docteur Guillaume Katembo, secrétaire exécutif provincial du syndicat de médecins du Congo.
Ici au Nord Kivu, ce mouvement de grève n'est pas suivi. Notre province du Nord Kivu a une population meurtrie de catastrophes et de violences de tout genre. Le plus récent étant l'éruption du volcan Nyiragongo et les tremblements qui ont occasionné le déplacement massif de la population, entraînant une utilisation des prestataires de soins au-delà de leur capacité. Puis il y a eu un retour des cas de déplacés avec des conséquences secondaires. Stress et une vie précaire et autres. Quelques semaines après, la troisième vague de la COVID-19 a été déclarée. Notre province est à l'épicentre du pays et toutes les structures sanitaires sont mobilisées pour prendre en charge les patients. Nous avons vu que ce n'est pas le moment d'abandonner la population. Ça serait une maltraitance supplémentaire d'une population déjà dans une souffrance qui perdure.
Les médecins du Nord Kivu se sont-ils désolidarisés, docteur Guillaume Katembo?
Nous ne nous sommes pas désolidarisés de nos confrères d'autres provinces et de la capitale Kinshasa, loin de là. Tout en étant solidaires à leurs actions, nous avons opté à poursuivre les activités d'ailleurs, au-delà de la capacité, car il y a urgence. Dans toutes les structures, les médecins ne sont pas une source de maltraitance. Notre regard pour cette lutte que mènent nos confrères est qu'elle est loyale. L'amélioration des conditions des médecins et des autres agents de la santé, ainsi que la sécurité de la population devrait être une priorité pour le gouvernement.
Le gouvernement de la RDC a rassuré que les notifications en grade de médecins, les ordonnances présidentielles et mécanisation avec des numéros matricules sont en cours d'exécution. Kinshasa, Patrick Lupika, VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Le Bénin a célébré ce dimanche 1er août le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Une célébration dans la sobriété compte tenu de la pandémie de coronavirus. De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur a Dandé.
Contrairement aux habitudes antérieures, les Béninois n'ont pas eu droit dimanche au traditionnel défilé militaire qui agrémentait la fête de l'indépendance et permettait de se faire une idée du dispositif sécuritaire du pays. Cette année, c'est le palais de la présidence qui a abrité les manifestations en présence du chef de l'État, des membres de son gouvernement et des présidents des institutions de la République. À la fin du cérémonial, fait de la prise d'armes et de la revue des troupes, quelques personnalités ont apprécié l'événement dans sa sobriété. La vice-présidente de la République se réjouit de cette célébration qui marque la renaissance du Bénin. Mariam Chabita Latazini.
61 ans, nous sommes en train de nous ressaisir, de faire ce que nous n'avons pas pu faire jusque-là. Bonne fête à tout le monde, l'espoir est permis.
La crise du coronavirus devient une habitude et s'impose à tous, pense le ministre des Affaires étrangères qui espère que l'année prochaine, la célébration se fera dans la chaleur qui lui était connue. Aurélien Agbenouchi.
Il faut apprendre à vivre avec cette pandémie. Nous avons les réflexes, nous les confirmons et donc je pense que c'est l'une des dernières qui se serait passée dans une ambiance aussi dépouillée.
Au niveau de la population, le cœur n'est pas à la célébration à cause de la pandémie.
Il n'y a pas de mouvement pour les autres fois, jusqu'à l'heure là, il y a des trucs par-ci par-là qui se passent, il y a l'animation même pour cette fois-ci. Je ne sais pas comment les choses vont se passer.
À la veille du 1er août, Patrice Talon a adressé un discours sur l'état de la nation. Le chef de l'État a relevé que le Bénin a encore du chemin et que la pandémie est venue montrer combien de fois le chantier est encore long.
Tu n'en veux pour preuve que la pandémie de Covid-19 en cours, notre totale dépendance en ce qui concerne les matériels et les intrants de dépistage, ainsi que le vaccin, nous révèle combien le chemin est encore long. Une chose est d'être capable, une autre est de réaliser.
Longtemps interpellé sur la place des femmes dans la gestion de la chose publique, le président de la République a annoncé que son quinquennat fera ce qui est possible pour redonner à la femme béninoise toute la place qui lui revient.
C'est le sens de la mise en place de l'Institut National de la Femme, nouvelle formule. Il traduit notre volonté de protéger et de promouvoir la femme béninoise, mais aussi de favoriser son émancipation.
Cette année, l'opposition est restée en marge de la célébration de la fête de l'indépendance. Et s'est limité à des déclarations sur les réseaux sociaux invitant le chef de l'État à œuvrer pour la libération des détenus politiques et le retour des exilés pour la reconstruction nationale. De Cotonou, Ginette Le Adondé pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, la mort de Jacob Desvarieux en début de week-end a été un choc, notamment dans les milieux culturels. Ce leader du groupe Kassav a inspiré plusieurs musiciens du continent. Certains gardent en mémoire la simplicité et l'humanisme de l'homme, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Lamine Traoré.
La mort du célèbre chanteur de Zouk, guitariste et leader du groupe Kassav, Jacob Desvarieux, à 65 ans vendredi, n'a pas laissé des acteurs culturels, musicaux indifférents.
C'est avec une grande consternation que nous avons appris le décès brutal de ce grand monsieur. Jacob Desvarieux.
Ben Ahmed Ouedraogo, dit Big Ben, est présentateur à la télévision nationale. Il a déjà rencontré Jacob Desvarieux.
J'ai eu personnellement l'occasion, sinon le privilège, de rencontrer à Ouagadougou, puis à Abidjan. Jacob était quelqu'un de tellement accessible, tellement simple, malgré le fait que Kassav soit sur le toit du monde en matière de musique. Jacob, c'est monsieur tout le monde. En deux minutes, trois minutes d'échange, c'est comme si vous vous connaissiez depuis une décennie. C'est quelqu'un qui vous met tout de suite à l'aise. Il part d'un grand rire, il te tapote. Et puis, t'as l'impression qu'il fait partie de la famille. C'est incroyable, ce monsieur. C'est vraiment une belle âme qui s'en est allée.
Madès est musicien burkinabé et promoteur de festivals. Il a aussi déjà rencontré Jacob Desvarieux.
La seule fois où il l'a croisé, c'était à Bassam, hein, Jacob Desvarieux, autour de 96-97, quoi. Il était passé en vacances à Côte d'Ivoire, puis il a fait le tour pour écouter toutes ses musiques. Jacob Desvarieux, pour moi, c'est la quintessence même du zouk. À l'époque, déjà, regardez la vitesse avec laquelle c'était déjà joué. Aujourd'hui, même quand on met ça, on n'a même pas besoin. Aujourd'hui, de plus en plus, les DJ augmentent la vitesse des musiques. Mais quand on met du Kassav, Zouk, là, c'est la musique à harmonie. On n'a pas besoin même de mettre la vitesse, quoi. C'est vraiment, véritablement la musique africaine. C'est vraiment une grande perte pour la musique noire.
Zouk, là, c'est le médicament. Voilà, c'est cette chanson qui m'a bercé, qui m'a donné l'envie de devenir chanteur, qui m'a donné l'envie de devenir zoukeur.
Ali Verouté est musicien de zouk.
Pour moi, Jacob Desvarieux, c'est un monument de la musique mondiale. Mon inspiration même musicale dans le zouk est venue bien sûr de Kassav. Donc, raison pour laquelle, pendant la Covid-19, j'ai fait une chanson en reprenant même une chanson de Kassav, où je chantais même avec la voix de Jacob.
Avec sa mort vendredi chez lui en Guadeloupe, de complication du Covid-19, l'Afrique perd un des grands musiciens qui a fait vibrer pendant des décennies les fans du zouk en Afrique et ailleurs dans le monde. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Voilà c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sibulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. We'll be right back.